Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Virage Marseille, un plateau qui respire la bonne humeur, la victoire, puisque l'Olympique de Marseille les enchaîne, ou alors quand il y a une défaite, elle est aussitôt rattrapée par un succès. Eric Dzimeco est là pour commenter ces enchaînements de matchs. Ça va Eric, on tient le coup ?
Très bien, ah oui, ah bah oui.
Et puis en face de toi, il nous revient, voilà, il était parti en immersion à Londres plusieurs jours pour être bien à la hauteur du rendez-vous
aussi,
Ligue
hein.
des Champions.
Un immersion, ouais, c'est
on
le cas de le dire.
On aurait pu rester plus longtemps, ça s'est joué à quelques heures.
Oui, c'est vrai, on aurait pu faire, l'actualité aussi, sur le jeudi.
Ce qui se passe à Londres reste à Londres, messieurs, ouais. Je ne sais pas si ça marche
non,
aussi
non,
pour
on
cette ville-là.
On avait une pensée pour la reine, qui nous a quittés juste deux jours après que ce soit, ou le lendemain même.
Ouais.
Très bien. En tout cas, la vie continue, la saison de l'Olympique de Marseille continue avec, donc je le disais, des victoires. C'était le cas samedi contre Lille et on en parlera dans la première partie où on évoquera aussi ce choc de Ligue des Champions à venir contre Francfort. Une occasion en or de marquer de gros points dans cette phase de poule. En deuxième partie, on parlera de Dimitri Payet et de son traitement médiatique. Tiens, est-ce qu'on en fait trop ? Il y aura ensuite, pour conclure, la page multisport Virage Marseille. C'est maintenant. Je vous le disais, l'Olympique de Marseille s'est imposé à l'Orange Vélodrome contre Lille 2-1, 3 jours après la défaite à Tottenham. Donc c'est bien digéré, 19 points sur 21 possibles. On est sur un super début de saison, le meilleur de l'histoire. Eric, même votre OM, l'OM Fast des années tapis, n'avait pas fait mieux.
Non, mais alors il y a le côté comptable, hein, et c'est vrai que c'est significatif, ça marque les esprits et puis ça peut même clore certains débats. Mais il y a surtout l'impression d'ensemble. Moi, je suis désolé, mais je me régale. Moi, je me régale. Samedi soir, ils auraient pu tourner peut-être un peu plus mal. Et même, je vais même plus loin. Mercredi, à Tottenham, ce que j'ai vu sur la première mi-temps, et Dieu sait que c'était risqué, et Dieu sait que l'action qui amène le pénalty, ça pendait au nez de l'OM, parce que le parti pris d'aller chercher très haut, de faire le pressing, impliquer un danger dans la profondeur. Mais il n'empêche que je me régale, voilà, je me régale. Et on a d'autant plus le droit de le dire et de savourer que l'an dernier, malgré la belle saison de l'OM, parce que l'an dernier aussi, on a parlé des bons résultats, de cette deuxième place, voire même de cet état d'esprit, puisque l'an dernier, souvent, on disait, quand il y avait des matchs moyens, mais au moins dans l'état d'esprit, il y a des garçons qui... Donc ça c'est récurrent dans cette équipe-là, ou en tout cas dans cet effectif-là. Par contre, au niveau du jeu, ce que je vois, moi, c'est le foot que j'aime. Moi. Le foot qui va vite devant, le foot qui prend des risques.
Voilà, égalisation, au rush d'Amin Harit.
Mais notamment, mais Under même tout, mais même ce que j'ai vu à Tottenham, alors avec une certaine... je ne sais pas si c'est de la passivité offensive, parce qu'il manquait des armes et on voit la peur d'Alexis, mais il n'empêche que c'est le football que j'aime. Voilà. Donc je me régale, et samedi soir, je me suis régalé. Le rythme qu'a mis l'OM, voire même Lille, puisque Lille aussi, du coup, a posé des problèmes dans un début de match, voilà, tu te mets devant un match de Ligue 1, tu t'éclates.
Là, on ne peut pas dire, Florent, qu'en face, c'était une petite équipe. On a pu dire Nice, oui, ils font un mauvais début de saison. Là, on avait un super Lille. On a vu un très bon Ounas qui a posé des difficultés. On a vu un très bon Benjamin André. Voilà, il y avait le Lille qui est performant depuis le début de saison face à cet OM. Et c'est l'OM qui a gagné.
Ouais, c'était un gros match à gagner. Moi, ce qui me plaît le plus, je me régale aussi d'ailleurs pour le dire. Hein, en plus, au commentaire, on prend notre pied parce que c'est vrai qu'il se passe toujours des choses. Donc, c'est top. Et il y a aussi le côté, je trouve, où de cette équipe se dégage un vrai caractère. On l'a vu un peu à Tottenham, enfin avoir beaucoup avant le carton rouge, parce que fallait quand même avoir les épaules. Hein. On était au stade, c'était bien plein, c'était une ambiance particulière, le retour de la Ligue des Champions, etc. Et puis ce gros match contre Lille, Marseille, ils ont quand même souffert. Parce que c'était costaud en face, parce que certains étaient fatigués, ils ne vont pas le dire, mais bon, ça tire un peu, c'est normal. Ça
il y a eu beaucoup de changements aussi, ouais. Donc c'est un risque pris par Tudor.
Exactement, et... Tu retrouves quels que soient les joueurs, quel que soit le scénario, quel que soit l'adversaire, et encore plus face à un adversaire de calibre, tu retrouves ce caractère, cette envie de défendre un résultat, de s'accrocher, avec en plus l'atmosphère du Vélodrome, on n'arrête pas de le rappeler, mais énorme
alors,
ambiance.
Quels que soient les joueurs, presque, Florent, parce qu'il y a quand même eu un changement à la demi-heure de jeu, et un changement qui a tout changé. Je m'explique, suite à l'égalisation, Balerdi sort pour laisser Kolasinac, qui était piston gauche, se replacer défenseur central gauche et laisser Nuno Tavares dans son couloir qui a fait de suite la différence, mais ça fait un malheureux, un triste héros, bah, c'est Léo Ballardi qui doit laisser sa place, qui forcément a du mal à cacher sa, sa frustration une fois sur le banc. Comment est-ce qu'on on est encore dans la gestion parfaite? Parce que les résultats donnent raison à Tudor.
Bah, c'est courageux de le faire. Parce qu'au final, des fois, on reproche à certains coachs de prendre des décisions trop tardivement. Lui, on le sait, à l'antenne, je disais, bon, on a compris, dans ses choix, c'est un killer, Igor Tudor. Donc, il ne va pas s'embarrasser de statut, de paillettes, on en reparlera, de ci, de là. Un joueur qui n'est pas bon, il sent que ça déséquilibre son équipe. Bah, c'est pas grave, je change au bout de 29 minutes. Alors après... En plus, il a ce geste de se retourner vers le public en disant « Non, ne le sifflez pas, voilà, c'est pas lui rendre
oui,
service. »
Oui, c'est un choix.
Donc c'est un choix, c'est un choix, mais je trouve qu'il est courageux de le faire. Après, ça ne veut pas dire que Ballardi, il n'aura pas sa chance dans les jours qui viennent, voire contre Francfort,
Flo,
notamment Ligue des Champions.
On le voit avec certains joueurs qui étaient sur le terrain samedi soir, puisque Under, soi-disant, et je faisais partie de ceux-là, pensait qu'il ne pouvait pas jouer dans le dispositif Tudor, puisque c'est un joueur de couloir, excentré. Lui, il a besoin d'attaquants qui sont proches et en soutien de l'attaquant de pointe. Et donc, je pense qu'il ne comptait pas trop dessus. Voire même Guendouzi, au départ, c'était pas gagné. Hein, mais, et dès que tu montres que tu es impliqué, que tu es dans l'état d'esprit, eh ben, voilà, tu reprends ta place. Et c'est pour ça que les garçons qui sont un peu moins bien, d'abord, ils ont du temps de jeu, on l'a vu, que ce soit à Auxerre ou sur le match de samedi, il y a eu beaucoup de turnover, il y a beaucoup de matchs, il implique tout le monde, contrairement au PSG par exemple, qui a mis la même équipe, ouais. Où il pourrait y avoir à un moment donné un problème de banc et de garçons qui jouent jamais. Bon, mais là, il implique tout le monde, il fait des choix forts. Quand il fait cette défense samedi soir, moi, je suis sûr qu'il sait qu'il prend un risque. De mettre Ballardi et Kolasinac dans le couloir, il sait qu'il prend un risque. Mais il se dit, il faut que j'implique les garçons et surtout, il faut que je fasse souffler certains. Donc, il le fait ce choix-là. Il se rend compte que ben, côté gauche, c'est défensivement, il y a un problème. Les actions passent de là, il y a le but. Ben, il réagit tout de suite et derrière, il gagne. Combien de fois l'an dernier, on a dit ben, on ne peut pas critiquer parce qu'on est deuxième. Eh ben, là, puis, on ne peut pas critiquer. Eric, les seules critiques possibles, on ne peut pas puisqu'il gagne.
On a beaucoup insisté, notamment ici sur ce plateau avec Eric et Romain, sur le côté Sampaoli, la lisibilité du match, faire les bons choix, le bon coaching, parfois ça laissait un petit peu à désirer. On trouvait peut-être que Sampaoli, c'était son petit péché mignon, son petit défaut.
En cours de match.
Donc il a eu énormément de qualité, il a amené l'OM deuxième, mais s'il y avait peut-être un truc à retenir côté négatif, c'est que pendant le match, peut-être qu'il influait, il n'y avait pas assez d'influence de sa part sur la rencontre. Là, on voit que Tudor, il fait des choix. Mais concernant Ballardi, je pense qu'il est embêté par quelque chose. C'est que Ballardi, en fait, son poste préféré, où il est le plus à l'aise, c'est comme on l'a vu à Nice, c'est vraiment axe central.
Il y avait la possibilité
central,
de mettre axe et le mettre Gigot à gauche, non?
Ouais.
Parce que Gigot démarre axe et Ballardi gauche.
Exactement. Mais par exemple, si on se projette sur le match contre Francfort, Gigot est très incertain, voire quasi forfait.
Ah.
Ouais. Il reste que trois défenseurs.
C'était Ballardi. Pour économiser Gigot qu'on l'a mis dans l'axe où on va dire il sera plus dans un rôle de.
Bah, je sais pas, mais en tout cas la réalité est que sur ce match-là, il va rester Ballardi, Bailly et Kolasinac. Et Bailly normalement c'est censé être le pilier quoi, donc il va être dans l'axe. C'est-à-dire que Ballardi sera à gauche. C'est là où il a été en difficulté contre Lille.
À droite,
avec Kolasinac à gauche. Peut-être qu'il est moins à l'aise sur un côté, mais après...
Kramens, là, tu vas me faire mal dormir cette nuit, là, avec la défense centrale que
alors,
tu m'annonces.
Bah, Mbemba est suspendu.
Oui, je sais. Ouais.
Regardez, on a quand même de quoi bomber le torse avant d'affronter Francfort, puisque les cinq derniers matchs de l'Olympique de Marseille, voilà, on voit qu'on est sur quand même une dynamique positive, que, bah oui, il y a une défaite à Tottenham, mais bon, je veux dire, quelle équipe française ne perdrait pas à Tottenham, alors que l'OM va affronter Francfort. Et vous allez voir, sur les cinq derniers matchs de Francfort, que c'est une équipe qui sort d'un succès, on le rappelle, en Ligue Europa quand même. Mais sur les derniers matchs, c'est moins ça. Voilà. Il y a eu cette défaite contre le Sporting avec trois contres pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Et ça leur a mis un petit coup sur le casque. Si
j'ai regardé un peu le match contre Wolfsburg. Il y aura des solutions offensives pour l'OM. Après, attention, devant, c'est intéressant. Hein, ils ont des bons joueurs. Hein.
Ben alors, il y a Kolo Muani pour l'OM. Normalement, il devrait y avoir, on en parlera dans la deuxième partie, Dimitri Payet, Alexis Sanchez suspendu au premier match. Qui pour accompagner Payet et Sanchez, messieurs?
Ah ben, un des deux de samedi soir.
C'est-à-dire Harit ou Under?
Ah, ils ont été énormes.
Bah, ça voudrait dire que tu te passes de Guendouzi, probablement, parce que je pense que Rongier et Veretout pour être aligné.
Ouais, ou alors, non, tu ne te passes pas de Guendouzi.
Donc,
non.
Si tu ne te passes pas de Guendouzi, ça peut être Guendouzi.
Je pensais qu'il allait remettre Guendouzi derrière, peut-être, faire le choix, mais tu as raison.
C'est Guendouzi-Rongier et Under Harit,
peut-être. Ouais, ben alors ça va faire comme ça. Alors, Dimitri et Guendouzi en soutien.
Ouais, Harit et Under, par contre, ça peut être des solutions très intéressantes. Ouais, on peut impact
voir,
player.
On
là,
peut les voir très rapidement, parce que ce qu'ils ont fait...
Ça reste la Ligue des Champions, quoi. On aurait une solution plus offensive avec ce que nous suggérons.
Il y a Harit, Under, Gerson. Imaginez qu'ils peuvent être sur le banc si tu fais ce trio-là. Guendouzi, Payet, Alexis Sanchez. Après, attention, Guendouzi tient la corde parce que je pense que...
Oh, il est indispensable.
Il est quasi indispensable, mais... Under nous a séduit, donc peut-être qu'il a séduit Tudor et qu'il va jouer, je sais pas.
Et puis voilà, il est capable de faire des choix forts, voire même de mettre les deux garçons qui ont flambé samedi soir sur le banc dans un premier temps, mais très vite rectifier s'il sent qu'il y a une inoffensivité. ouais, j'allais dire une inoffensivité offensive, c'est pas terrible. S'il y a un problème offensif, s'il y a besoin de 109 ou de percussion, il est capable de faire des choix forts assez rapidement. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut lui faire confiance parce que il est super réactif, il donne sa chance à tout le monde et voilà. Alors après, il faudra du mauvais coaching, on le dira, ils perdront des matchs, ouais. Ils seront moins bons, on le dira, mais là pour le moment, on est obligé de lui faire confiance.
Alors justement, pour ce match, savoir si une défaite ou pas, est-ce que même un match nul serait une mauvaise opération? Je m'explique, on est dans une phase de poule. Là, clairement, vu la dynamique, Francfort semble être parti pour être l'équipe la plus faible. Encore faut-il le confirmer et leur laisser la tête sous l'eau, désolé pour l'imagerie. Est-ce que un match nul serait une mauvaise opération vu le contexte? On sait que si on va être deuxième, troisième, il faut prendre des points et c'est la meilleure occasion
pour
prendre
moi,
une victoire.
Oui, clairement. C'est-à-dire que si l'OM veut avoir un peu d'ambition, rêver d'être dans les deux ou se battre au pire pour la troisième place, et ça peut être avec Francfort, pour moi, faut gagner. L'OM doit se dire, cette année, c'est Ligue des Champions, c'est Vélodrome plein. Ça n'a pas été le cas lors des deux dernières campagnes.
Je la vois, cette stat, à croire qu'elle nous a envoyé directement depuis Paris. 15 matchs, 14 défaites. Ouais, c'est les 15 derniers matchs l'OM en Ligue des Champions. Ouais, Est-ce que ça ne met pas une pression?
Là, souvenons-nous quand même ce qu'on dit depuis, essayons d'être un peu cohérents et d'avoir un peu de mémoire, hein. Souvenons-nous ce qu'on dit depuis le début de la saison, on voyait beaucoup de positifs, on mettait les bémols par rapport à l'adversité, on attendait le premier gros test pour juger cette équipe-là et pour savoir à quel niveau on la mettait dans ce groupe-là. Après ce qui se passe depuis le début de la saison, après ce qui se passe au Stade Vélodrome, après ce qui s'est passé samedi soir et surtout ce qui s'est passé à Tottenham, moi, les deux prochains matchs de Ligue des Champions, il faut deux victoires. Mmh. L'OM doit viser la deuxième place dans ce groupe-là, parce que d'après moi, il y a la place. Gérard des Francfort jouait ce week-end. J'ai vu Gérard un peu le Sporting aussi. Ça m'a pas impressionné. Ils peuvent nous embêter, bien sûr, mais l'ambition, c'est de gagner deux matchs à domicile. Et ce qu'on voit depuis le début de la saison, parce qu'il faut mettre ça en avant et insister toujours sur les 25 points perdus à domicile l'an dernier avec une certaine passivité, avec des équipes qui venaient nous ennuyer. 4 matchs, 4 victoires pour le moment au Stade Vélodrome. Alors, c'est pas sûr qu'on gagne les deux sur les deux qui arrivent de Ligue des Champions, là. Et encore qu'il y en a un, entre l'extérieur, là, que ça va où, là?
On aura le temps de voir, ouais. Eric.
Voilà, donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que...
On reçoit deux fois Francfort, puis le Sporting.
Oui, c'est ça, mais il y a un match de championnat entre, je présume. Ouais. Parce que des fois, c'est difficile de gagner 2 matchs de suite.
Messieurs, il y aura des virages Marseille pour en reparler. Ça, ne vous inquiétez pas. En attendant, on va basculer sur Dimitri Payet. De retour sur le plateau de Virage Marseille pour évoquer un cas particulier, le cas particulier dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Vous me voyez venir, évidemment, Dimitri Payet avec une question. Est-ce qu'on en fait trop avec Dimitri Payet? Et quand je dis on, ne nous cachons pas, ne mettons pas les supporters devant pour être derrière. Parlons aussi des journalistes, messieurs, parce que c'est vrai que des questions sur Dimitri Payet, on y est avec Flo en conférence de presse, en conférence d'après-match. On en a à chaque fois une. Alors, si c'est pas faux, c'est moi, c'est d'autres. On y va chacun notre tour. Et du coup, Tudor, il commence un peu à être agacé de tout ça. Regardez sa réaction, qui reste quand même tout à fait correcte et respectable, après le match, après la victoire contre Lille. C'était samedi soir.
Dimitri est bien, comme toute l'équipe, mais on joue tous les 3 jours et tout le monde est important. J'ai parlé avec Dimitri vendredi et il était d'accord. Je lui ai expliqué qu'il y a un match où il ne jouerait pas et l'autre où il jouera. Donc il débutera le match en Ligue des Champions.
Ouais, il a rajouté un peu Flo que voilà, il avait fait ce point-là et que bon, il allait peut-être pas le faire à chaque fois.
Oui, en fait, il a répondu avant la conférence de presse à deux interviews des détenteurs.
Les détenteurs de droits.
Ouais, et qui eux aussi ont posé leur petite question sur Payet. Donc une question sur Payet, une deuxième sur Payet. La conférence de presse Payet avec des confs qui sont parfois un petit peu trop courtes. On salue le service com et peut-être que ça a un impact. On se dit waouh, on est sur la meilleure série de l'OM.
Oui, parce que c'est pas une petite question, c'est 20% en championnat. Final des questions.
Bah oui, mais posées. Après ça peut faire partie du jeu médiatique. Parfois, on peut estimer effectivement que la question elle a pas lieu d'être. Mais après, rappelez-vous la saison passée, on en a peut-être un peu trop fait sur Mandanda ou toutes les conférences.
Ou pas.
Non, mais toutes les conférences de voilà, toutes les conférences de presse, Sampaoli avait le droit à sa question. Il s'est jamais
autant
énervé.
Que ça, autant que ça l'an dernier sur
Mandanda. Une fois sur deux, ouais. Hein, ouais globalement.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que bah, ça paraît de rebondir là-dessus. À chaque fois, il y a des supporters qui se disent « mais c'est un lobby journalistique parce qu'en fait, Payet, il informe les journalistes, donc les journalistes veulent que Payet soit dans l'équipe ». Non, les journalistes de l'OM ont intérêt à ce que l'OM gagne, tout simplement.
Non, mais je ne sais pas qui sort ça que...
Non, mais c'est un imaginaire journaliste, collectif, non, mais on aime bien toujours détenir les secrets.
Depuis 15 ans, je suis l'OM, y a tous les joueurs ils sont passés. Non, mais c'est lui qui a informé les journalistes. Ah non, mais c'est lui. Maintenant, en fait, c'est lui. Ouais, et finalement, bon, les joueurs partent et puis on continue de faire notre métier. Donc, je veux dire, c'est pas ça le problème.
Étonnamment, les infos
sont toujours. Non, mais les supporters aussi se posent des questions et c'est normal. Là où la limite de l'exercice, c'est... C'est que tu l'as dit, meilleur début de saison, peut-être de l'histoire de l'OM, parce que en championnat, puisque nous, je crois qu'on l'avait jamais fait ça, notre génération.
Cette journée,
voilà, preuve que, et on peut mettre tous les bémols par rapport à l'adversité, à un moment donné, ça marche plus, les bémols. Donc, tu es obligé de saluer la gestion et du groupe des joueurs de Tudor. Ensuite, nous, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Et ça a toujours une limite, c'est-à-dire qu'un joueur qui a été blessé à Auxerre, pour aller à Tottenham, il n'est peut-être pas à 100%. Et derrière, pour enchaîner trois jours après sur un match, un des tests en championnat. Voilà. Et puis surtout, quand on voit l'intensité qu'ont mis les trois attaquants samedi soir, que ce soit défensive ou offensivement, sur tous les contres qui sont le premier but, c'est significatif, c'est aller à 2000 à l'heure. Voilà, on se dit que peut-être dans ce schéma de match, Dimitri est peut-être pas le plus utile. Par contre, il va être très utile sur d'autres matchs parce qu'il a d'autres qualités. Il y a des matchs où on va avoir le ballon, on va avoir la possession, où le bloc va être haut et on va être un peu moins embêté défensivement. Et là, il va apporter beaucoup. Ne jamais oublier qu'il a 35 ans, qu'il y a une gestion à avoir de ce garçon-là. Et puis surtout, j'ai entendu des gens qui disaient on manque de respect à Payet. Moi, j'aimerais bien juste savoir si à Manchester United, on pose les mêmes questions sur Ronaldo à Ten Hag, et si on dit qu'il manque de respect, j'ai pas entendu moi ça. Ouais. Voilà, donc soyons un peu... Il y a un coach qui voit tous les jours l'entraînement des garçons quand même, et il travaille plutôt pas mal, donc à un moment donné, faisons-lui confiance.
Après, juste un truc Romain, c'est que des fois on reproche aux journalistes de sortir tous les dossiers polémiques quand ça perd. Là, il y a une honnêteté, c'est même si ça gagne, tu poses des questions, parce que Payet, ça reste un joueur un peu différent,
emblématique, historique, ça fait emblématique. Qu'il est là,
donc, oui. La question, je pense, elle fait presque partie du jeu médiatique. Après, attention, il y a plusieurs choses. Un, comme le dit Eric, on a tous compris et tous vu ce que veut Tudor. Il veut des joueurs à ces deux postes-là, là, milieu offensif, qui percutent, qui vont vite vers l'avant, et il estime. Pour le moment, Payet, il ne correspond pas encore à ça. Et Under Harit, on a très bien vu qu'il correspondait, ils avaient fait le taf en ce sens. Et puis après, il y a autre chose, c'est que Payet, visiblement, lui, il comprend, je pense qu'il a les boules. C'est un compétiteur, il a envie de jouer, etc. Mais il n'y a pas de tension majeure.
Au contraire, il donne une image de quelqu'un concerné.
Après le match, Eric, j'ai bien regardé, il va avec ses coéquipiers.
C'est ça, j'ai vu.
Il salue les supporters. Suarez s'énerve l'autre fois, la petite tape sur le genou. Il garde un rôle positif, il se bat à l'entraînement. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'embrouille. Lui-même l'a dit, il n'y a pas d'embrouille. Donc,
ne pas oublier que l'an dernier, Steve, qui était agacé, voire énervé, voire qui boudait, et d'après moi, à juste titre, on le voyait. sortait pas à l'entraînement, il sortait pas à l'échauffement. Ouais, on, on a vu qu'il boudait. Dimitri, on voit pas qu'il boude. Hein. Ouais. Au contraire, hein, il est dans l'esprit. Donc d'après moi, il a compris que il aurait du temps de jeu, que peut-être il pouvait pas enchaîner tous les trois jours, qu'il y a une hiérarchie qui se définit selon l'adversaire aussi. Et moi, je suis content de le voir demain soir sur le terrain parce qu'il va apporter peut-être contre une équipe et dans un match de Ligue des Champions, il va peut-être apporter le plus qu'il faut et qu'il a manqué peut-être à un moment donné à Tottenham. Moi, je pense qu'à Tottenham, si Mbemba ne se fait pas expulser, je pense qu'on le voit à un moment donné, Dimitri, sur le terrain, quand il y a le petit coup de patte qu'il faut sur un match qui est un peu tendu. Donc jugeons sur pièce aussi.
Vous allez voir les stats de Payet de la saison dernière. Alors, je les ai tournées d'une manière bien précise parce qu'on parle souvent de l'âge. Regardez, bon, Fossé-Indor, donc élu par la presse, les supporters, les groupes de supporters et les internautes meilleurs joueurs de la saison. 16 buts, 13 passes décisives. Il a raté que 10 matchs dans une saison où on a dépassé les 50 matchs. Hein. Il a raté 10 matchs et il y a 5 matchs où il est rentré en cours de partie. Donc quand même à 35 ans, puisqu'il les avait à ce moment-là, on a quand même un joueur qui est quand même plus qu'utilisé. Et vous voyez donc que cette saison, ça marche beaucoup moins bien, puisque le temps de jeu est nettement réduit. Cette saison, on est sur 29,5% là de temps de jeu. Une titularisation, 7 fois remplaçant et une seule passe décisive. Vous me voyez venir, la dernière fois que Payet a enchaîné une seule titularisation sur 5 matchs de l'OM, ce sont les 5 derniers matchs d'André Villas-Boas à l'OM. Est-ce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte? Parce qu'il y a eu André Villas-Boas, parce qu'il y a eu Rudy Garcia. Si le coach ne s'est pas mis Payet dans la poche, attention, ça peut être ensuite un peu compliqué. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas?
Mais moi, d'après moi, non.
Ou c'est dépassé, hein, ça peut aussi, mais tout individu a le droit d'évoluer.
Le seul truc qui manque d'être testé, c'est qu'il a 2 ans de plus, voire 3 ans de plus par rapport à Villas-Boas au début. Et ça compte quand même quand peut-être qu'il ne peut pas répéter les matchs. Mais non, mais en physique, on a tous vu l'intensité que l'OM a mis, que ce soit à Tottenham dans la récupération de très haut et contre Lille. Moi, je pose une question. Est-ce que Dimitri est capable, sur 90 minutes et sur tous les 3 jours, de faire ce qu'ont fait Harit et Under? Moi, je reste persuadé que dans un autre registre, il peut apporter beaucoup à l'OM, peut-être titulaire, peut-être en rentrant. Je le répète, je suis content de le voir sur le terrain demain soir parce que, justement, on va pouvoir juger sur pièce. Mais il y a ça, à un moment donné. C'est l'intensité, les sprints, les efforts que tu fais. J'ai souvenir d'un match qu'il a fait en début de saison où l'OM était toujours comme ça dans l'impact. Et il y a un adversaire qui sort devant lui et il ne fait pas les 2 mètres pour aller je ne sais plus si c'est pas à Nice ou si c'est...
C'est
au Vélodrome contre Nantes, je crois, où tu dors à gueuler sur le banc. Parce que quand tu joues à ce poste-là, dans ce dispositif-là, il faut aller mettre les pieds là où certains ne mettent pas la tête, même quand il est attaquant.
On espère du coup qu'il saisira pour lui l'occasion ou que d'autres la saisiront. Ce qui importe, bien sûr, c'est que l'Olympique de Marseille s'impose. C'est tout pour ce virage Marseille, qui, je vous le rappelle, est en partenariat avec le Fosséen. On se retrouve lundi prochain pour un débrief, on l'espère, de futures victoires de l'Olympique de Marseille. Salut à tous.